Votre générosité fera toute la différence. Radio J, le 9-10, Ilana Ferradian.
Bonjour et bienvenue sur Radio J, merci d'être avec nous comme tous les jours ce lundi 13 mai 2024, 220e jour de guerre contre le Hamas, on en parle bien sûr sur Radio J. Et toute l'actualité avec Eva Soto, bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Les commémorations du Yom HaZikaron aujourd'hui, la journée en Israël d'hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme.
Une cérémonie cette année sous le spectre de la guerre encore en cours dans la bande de Gaza et des massacres antisémites commis par le Hamas le 7 octobre. Plus de 1200 morts ce jour-là, encore 132 otages dans la bande de Gaza. 711 militaires tués depuis, 6236 Israéliens ont perdu un proche donc depuis ce funeste 7 octobre. Les sirènes du souvenir retentissent à nouveau aujourd'hui à 11h, heure d'Israël, 10h ce matin pour Paris. 2 minutes durant lesquelles tout le pays se figera en mémoire à ceux qui sont tombés et qui ont contribué à ce qu'Israël vive. Comment va se dérouler cette journée? Correspondance à Jérusalem, Daniel Haïk.
Ce seront des centaines de milliers d'Israéliens qui iront se recueillir dans l'un des cimetières militaires du pays. Les deux principales cérémonies se tiendront au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem à 11h, à la mémoire des soldats, et à 13h, à la mémoire des victimes du terrorisme. Cette année, pour des raisons de sécurité, entre autres, les autorités ont demandé uniquement aux familles très proches des soldats tombés de se rendre au cimetière. On ne sait pas comment une telle mesure pourra être respectée. L'Organisation sioniste mondiale organise également ce matin une cérémonie du souvenir à la mémoire des Juifs de diaspora assassinés par des terroristes parce que juifs.
Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, quant au président de l'État, Isaac Herzog, il s'est quant à lui présenté hier soir avec sa chemise déchirée en signe de deuil à la cérémonie au Kotel. Tant que nos ennemis chercheront à nous tuer, nous ne déposerons pas les armes. L'épée, selon les termes de Isaac Herzog, en référence au nom de l'opération militaire en cours contre le Hamas à Gaza, épée de fer.
Et puis malgré la guerre contre le Hamas, depuis plus de 7 mois, le groupe terroriste reste une menace.
Et ce matin encore, il y a environ une heure, des sirènes d'alerte à la roquette ont retenti à Netiv HaSaram, El Fassim et près de la frontière avec Gaza. Tzahal a confirmé ses attaques à la roquette sur les communautés du sud. Hier, les alertes à la roquette ont aussi retenti dans la soirée à Kisoufi, mais plutôt dans la journée à Sderot.
Selon le New York Times, le chef du Hamas à Gaza se cacherait à Khan Younes.
Et sur le terrain, les médias palestiniens ont rapporté des frappes nocturnes de Tzahal dans les quartiers est de Rafiar. Selon eux, Tzahal aurait utilisé des drones pour cibler les véhicules de la police du Hamas dans la ville. Des raids ont aussi été signalés ces dernières heures dans le quartier de Shejaïa, dans le nord du territoire.
Et l'armée israélienne a également annoncé l'élimination du terroriste qui retenait Noah Marciano en otage à Gaza.
Naïm Goul faisait partie des personnes chargées de la surveiller avant sa mort. Le corps de la jeune israélienne a été retrouvé par Tzahal à l'hôpital Shifa en novembre dernier. Ce terroriste était aussi responsable de nombreux tirs de roquettes. La frappe aérienne qu'il a tuée a eu lieu vendredi à Gaza.
Washington voit avec défiance par ailleurs l'opération de Tzahal lancée à Rafah, une offensive majeure. Les États-Unis sont contre.
Oui, c'est ce qu'a dit Anthony Blinken hier au téléphone au ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, le chef de la diplomatie US, qui a par ailleurs affirmé qu'Israël n'avait pas encore fourni de plan sur l'après-Gaza pour éviter au Hamas de reprendre le pouvoir. Il a aussi affirmé l'objectif américain en faveur de la défense d'Israël et l'objectif commun de la défaite du Hamas.
L'actualité en France, Valérie Hayet, tête de liste Renaissance européenne, piégée ce week-end à Paris.
Des militants d'extrême droite affublés de t-shirts néo-nazis ou prônant la suprématie de la race blanche l'ont sollicitée pour un selfie. Elle a accepté, sans voir ce qu'il portait. Valérie Hayet affirme avoir été piégée. Pierre-Alexandre Anglade, son directeur de campagne, ce matin sur Radio J avec Christophe Barbier.
Au fond, ce sont les manœuvres indignes de l'extrême droite, des néo-nazis, de toutes celles et ceux qui aujourd'hui prospèrent dans notre pays. On a vu des manifestations il y a 48 heures en France qu'on ne pensait plus voir dans notre pays.
Cette manifestation était interdite par la préfecture, elle a été rétablie par la justice. Vous le déplorez ?
Oui, je le déplore. Je le déplore parce que les défilés d'extrême droite n'ont rien à faire dans les rues de France.
Vos barbiers du matin, tous les jours du lundi au vendredi sur Radio J à 7h45, à podcaster sur notre site internet et à retrouver sur notre compte YouTube.
Et puis enfin, une manifestation contre la haine à l'école hier après-midi à Paris, place de la République.
Plusieurs centaines de personnes y ont participé, aussi des associations et organisations qui se sont jointes à l'appel de la DDF, la Diaspora Defense Force de Franck Tapiro. La haine en général est celle contre les juifs avec des mobilisations qui se présentent comme pro-palestiniennes, notamment sur les campus ces dernières semaines, mais dont les juifs deviennent effectivement des cibles.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 26 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et on revient à l'actualité en Israël avec notre correspondante Pascal Zonshine. Pascal, ce matin, on revient évidemment sur ces cérémonies du Yom HaZikaron, des cérémonies qui se tiennent dans un climat très particulier cette année. Bonjour Pascal.
Oui Ilana, Yom HaZikaron, la journée à la mémoire des morts tombés dans les guerres d'Israël. Et cette année, la mémoire se confond avec le présent. Elle n'est pas encore une mémoire. Comment peut-il en être autrement quand hier, seulement hier, 5 familles ont suivi les cercueils de leur fils tué vendredi à Gaza. Depuis le 7 octobre, 1533 noms se sont ajoutés à la liste des morts. 822 civils, dont 40 enfants et mineurs, et 711 membres des forces de sécurité, dont 620 soldats et soldates de Tsahal. Des chiffres qui donnent le vertige, car ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies fauchées, des familles décimées, des histoires inachevées. Hier soir, partout dans le pays, les sirènes ont retenti durant une minute et durant une seconde, le cœur s'arrête. Alerte ou hommage ? Mais la même note continue et on comprend que ça n'est pas un bombardement. Le garde-à-vous prend fin dans la nuit froide, car il fait froid à Jérusalem, dans la cour du centre communautaire de Baka. Comme chaque année, des centaines de chaises en plastique ont été disposées, mais elles ne suffisent pas. Dans les travées et dans la rue, la foule continue à se masser. Les enfants se regroupent sur les côtés, les parents et les grands-parents s'assoient. Il y a les drapeaux d'Israël qui claquent au vent et celui qu'un jeune soldat met en berne. Il y a les lettres du mot Iskor, souvenir, qui vont être enflammées. Et sur le mur d'un immeuble, une banderole à l'effigie de Hersch Goldberg-Polin, un jeune du quartier, otage à Gaza depuis 219 jours. Car cette cérémonie, elle n'est pas abstraite. Ceux à qui l'on rend hommage, ce sont des enfants du quartier. Ils ont été élèves au lycée du quartier, ils ont joué au foot sur les pelouses du quartier. Ils y sont venus passer les Shabbats chez leurs grands-parents ou y ont fréquenté les mouvements de jeunesse. David, Israël, Netanel, Hanan, tombés à Gaza, avaient grandi ici. L'oncle d'Israël Amichai vient parler de son neveu, tué le 7 octobre au kibbutz Kerem Shalom, où il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour sauver sa famille et ses voisins. Il avait 33 ans. Aner, lui aussi, avait des copains dans le quartier. Sa tante a raconté ce garçon au sourire lumineux qui était au festival Nova le matin du 7 octobre. Sans armes, il avait défendu un petit abri de béton où s'étaient réfugiés d'autres jeunes. Les survivants ont raconté comment il avait renvoyé les grenades jetées par les terroristes avant l'explosion de celle qui lui a été fatale. Nous ne savions pas que ce héros de 22 ans avait été un de ces gamins croisés dans les rues du quartier. Le rabbin de Baka a eu du mal à contenir ses sanglots au souvenir de ceux dont il avait célébré la bar mitzvah et parfois même le mariage. Il y avait de la tristesse, il y avait de la douleur, mais pas de haine. Seulement une communion, une force qui enveloppait tous ceux qui étaient réunis dans la nuit froide. Une force faite de fierté, de vie et d'espoir, la même dans tout le pays. Celle du peuple d'Israël, debout, malgré tout.
Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, qu'on retrouve évidemment tous les matins également, début d'après-midi à partir de 14h.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Nouveau, ouverture d'un collège bilingue à Boulogne pour la rentrée, le Collège Tikva. Renseignements au 01 49 23 73 41 ou sur collegetikva.com. Vous écoutez
Radio J.
Radio J. Radio J.
Un point sur la météo ce matin. Après un magnifique week-end ensoleillé, ce lundi, le temps redeviendra perturbé sur l'Hexagone avec des pluies ou des averses. Quelques rayons de soleil toutefois. Les températures sont bonnes en Ile-de-France. 21 degrés à Paris, 23 à Lyon, 21 à Marseille. Et puis en Israël, de la pluie attendue aujourd'hui. 21 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv. Du soleil à Eilat en revanche avec 31 degrés.
Ilana Ferradio.
Et un point sur l'infotrafic en région parisienne. Circulation difficile en ce moment même sur l'autoroute A86 dans le sens intérieur entre Vélizy et le pont Colbert pour rejoindre la Nationale 12. Circulation également difficile sur l'autoroute A13 vers Paris entre Rocancourt et Porte d'Auteuil. Et puis dans les transports en commun ce matin, trafic interrompu en ce moment sur la ligne 8 entre la Motte-Piquet-Grenelle et République en direction de Pointe-du-Lac en raison d'un métro en panne à Concorde. Heure de reprise estimée à 9h30. Des perturbations aussi sur les lignes de RER, sur la ligne C, trafic fortement ralenti de Brétigny vers Versailles-Château et de Brétigny vers Saint-Quentin-Yvelines. Sur le RER D et la ligne E également, des perturbations, renseignez-vous avant de vous rendre en gare.
Radio J, le 9-10, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est la journée du souvenir. Effectivement, on en parlait tout au long de cette édition et toute la journée, le Yom HaZikaron. La journée en Israël d'hommage aux victimes de la guerre et aux victimes du terrorisme. Une cérémonie cette année sous le spectre de la guerre encore en cours. Les massacres antisémites du Hamas le 7 octobre. Plus de 1200 morts, on le rappelle. Ce jour-là, il y a toujours 133 otages dans la bande de Gaza. 711 militaires ont été tués depuis cette date tragique. Enfants, parents, veuves, frères et sœurs, 6236 Israéliens ont perdu un proche depuis le 7 octobre. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Ilan Klein, directeur adjoint du département international du Magen David Adom Israël. Bonjour Ilan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, important de vous entendre, vous qui êtes en première ligne depuis ce 7 octobre. Justement, que représente pour vous cette journée et aussi aux yeux du Magen David Adom qui a perdu, il me semble, beaucoup de secouristes depuis le début de la guerre?
Oui, pour nous, cette année, c'est une année différente parce que cette année, on a perdu 28 de nos secouristes. 28 personnes qui étaient là, qui avaient l'habitude de sauver des vies, et malheureusement, ils ont perdu leur vie. Alors, les 35 000 bénévoles du Magen David Adom s'arrêtent aujourd'hui pour se souvenir, pour en parler, pour participer avec les familles dans cette journée.
Vous allez organiser justement des événements en particulier pour ce Yom HaZikaron avec le Magen David Adom. Et si oui, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'un de ces événements, d'un d'entre eux?
Oui, alors ce matin, dans quelques minutes, les bénévoles du Magen David Adom seront dans les cimetières partout en Israël. Et cet après-midi, il y a des événements dans les stations du Magen David Adom pour se souvenir, pour raconter chaque bénévole du Magen David Adom qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a sauvé des vies et malheureusement comment il a perdu sa vie.
Alors également, le Magen David Adom aujourd'hui va financer une ambulance par balle à la mémoire de deux hommes qui ont été tués justement au cours des opérations de la guerre, Nitai Meizel et Amichar Ben David.
Oui, tout à fait. Le Magen David Adom avec les familles Meizel et Ben David, on a décidé de mettre en place une campagne pour commémoration de ces deux combattants. Amichar, un ami à moi, a perdu sa vie dans le sud de la bande de Gaza en tant que commandant, et lui-même était le chef de bénévoles dans la localité de Eli. Cette campagne est mise en place pour pouvoir s'équiper d'ambulances par balle. C'est important de le dire que les ambulances blindées, c'est quelque chose de nécessaire en Israël. C'est quelque chose qui nous manque. On a vu le 7 octobre les besoins qu'on a d'ambulances blindées. Et maintenant, on va se renforcer avec une ambulance blindée grâce à cette campagne, grâce à ces donateurs qui nous donneront la possibilité de continuer à sauver des vies, même quand ça tire et même quand il y a des roquettes.
Effectivement, et on entendra d'ailleurs Ethan Meisel tout à l'heure, le père de Nitaï, à partir de 9h45, qui nous parlera aussi de cette opération. Eva, vous avez une question à poser à Ilan Klein.
Bonjour Ilan Klein. C'était une question concernant notamment cette journée, comment elle va se passer. C'est une journée de commémoration, effectivement, en Israël. On l'oublie parfois, mais c'est tout un pays aussi qui lutte et qui est traumatisé. Est-ce que dans une journée comme celle d'aujourd'hui, vous avez au MDA des urgences particulières, notamment de gens peut-être qui font des malaises ou qui sont sous le choc ?
Oui, alors le Magen David Adom a des équipes, des ambulances dans tous les cimetières d'Israël. Le Magen David Adom, en parallèle et en niveau d'alerte important dû à la guerre dans le sud et dû à la guerre dans le nord. Et tout ensemble fait que le Magen David Adom est prêt à répondre le plus vite possible. Pour tout appel, et ça sera des appels dans les cimetières, et ça sera des personnes en choc, et ça sera des blessés ou des personnes qui ont besoin d'aide. Tout ça, le Magen David Adom est sur place pour donner la réponse la plus rapide et plus efficace.
On a le sentiment, Ilan, c'est vrai, et on en parlait en off avec Eva, que le Magen David Adom se constitue un petit peu comme une armée, finalement. Est-ce que vous considérez, vous, que le Magen David Adom est une armée humanitaire ?
Moi, je dis que le Magen David Adom, c'est les combattants de la vie. Le Magen David Adom, malheureusement, on l'a vu le 7 octobre, a changé un peu de rôle. D'habitude, on avait l'habitude d'être la deuxième ligne et pas être sur le front du point de vue de guerre. Et cette fois-ci, le Magen David Adom, on était sur le front. Le Magen David Adom a réagi, est arrivé sur place le plus vite possible pour sauver des vies. Et malheureusement, on a perdu ce jour-là 4 secouristes dans les combats. Alors, si on peut dire, je crois que les secouristes du Magen David Adom, c'est les combattants de la vie.
Ilan Klein, vous dites effectivement les secouristes du Magen David Adom, c'est les combattants de la vie. Vous rappelez à juste titre qu'ils étaient en première ligne, vos secouristes, le 7 octobre. Est-ce que depuis le 7 octobre, justement, le Magen David Adom en a tiré des leçons et a changé certaines modalités de mobilisation, des modalités de sécurité pour ces secouristes ?
Alors, premièrement, les modalités de sécurité sont restées les mêmes parce que le Magen David Adom, même le 7 octobre, a fait tout pour réussir à garder, à sauver les secouristes. Mais les leçons qu'on a reçues, c'est de renforcer avec des ambulances blindées, de renforcer avec des gilets pare-balles, de renforcer avec des casques pour pouvoir réagir le mieux possible pour la population, avec le moins de dégâts possible.
Merci beaucoup Ilan Klein d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On va vous laisser effectivement puisque c'est une journée marathon qui commence aussi pour les secouristes du Magen David Adom. À noter qu'on recevra donc tout à l'heure Ethan Meisel, le père de Nitaï Meisel qui a été tué à Gaza en décembre dernier. On va parler notamment de cette ambulance que va financer le Magen David Adom à la mémoire de Nitaï Meisel et de Amichar Ben David. Merci beaucoup Ilan, et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants, on va revenir en France avec vous, Eva Soto, revenir sur cette manifestation qui a été organisée hier à Paris, notamment Libérons l'école de la haine, après des rassemblements anti-israéliens et même antisémites, on peut le dire, qui se sont déroulés à Sciences Po et au sein de plusieurs universités. Vous étiez justement hier à Paris pour ce grand rassemblement organisé par la DDF, la Diaspora Defense Force de Franck Tapiro. Et puis, juste après, le rappel des titres. Et on parlera aussi de la guerre en cours avec Yehuda David, médecin militaire de réserve, qui a été envoyé au combat aussi ces derniers mois en Israël.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Radio J.
Le 9-10, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et oui, vous l'entendez, cette sonnerie. Et oui, c'est l'heure de rentrer dans les petites classes. Fini la récréation. Et ce matin, on va justement parler de l'école avec vous, Eva Soto. Libérons l'école de la haine. C'est sous ce mot d'ordre que différentes associations et des citoyens, chercheurs et politiques se sont retrouvés hier après-midi, place de la République à Paris. Et vous y étiez, Eva, justement.
Oui, un événement avec différents collectifs, notamment organisé autour de la DDF, la Diaspora Defense Force, organisation montée par le publicitaire Franck Tapiro. Sur place, beaucoup de personnes avec des panneaux contre la haine à l'école, mais aussi avec des portraits d'otages toujours retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Un rassemblement contre la haine à l'école dans un contexte tendu dans de nombreuses facs et après la mobilisation à Sciences Po Paris. Alors, pour les Palestiniens ou contre Israël, les deux fusionnent et pas seulement sur les bancs de la fac, mais aussi hier lors de cette manifestation. Preuve par le son, attention, tendre l'oreille et pas la joue.
Qu'est-ce qu'elles sont venues faire?
La provoque. Je crois qu'ils auront peut-être des points supplémentaires sur TikTok, peut-être des points de vie supplémentaires ou je sais pas, un compte certifié, je sais pas.
Elles sont venues dire quoi? Il y a eu du grabuge un peu.
Oui, oui, elles sont venues dire qu'en fait on n'a rien à faire là, que c'est plus notre pays. Enfin voilà, en gros, ils veulent nous voir dehors. Ils aiment les juifs, mais dehors, voilà.
Stéphane Zibi, co-organisateur de cette manifestation pour les trois premiers mois de cette année, en comparaison avec la même période l'an dernier, les actes antisémites ont augmenté de 300% et ce fléau n'épargne plus les jeunes. Ce sont même les plus touchés dans les universités. Les mouvements de soutien aux Palestiniens se sont multipliés et dans un climat de radicalité, les étudiants juifs en sont les principales victimes. Il a beaucoup été question d'ordre lors de ces occupations de FATC. L'ordre, d'accord, mais l'antisémitisme alors? Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France.
Cette belle expression de l'ordre républicain, à mon avis, ça doit être pris de façon globale. Oui, il y a l'ordre en termes d'agitation et d'empêcher simplement que des étudiants empêchent d'autres d'aller en cours, etc., etc. Ça, c'est sûr, c'est la base, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a l'ordre républicain, c'est également, ben voilà, toute cette haine, l'antisémitisme, le racisme. Ça aussi, moi, je crois que c'est des atteintes à l'ordre social, à ce qui fait société, ce qui fait commun.
À 15h30, 200 manifestants contre les organisateurs, mais c'est déjà pas si mal, disent-ils. Le rassemblement a lieu alors que beaucoup sont encore en week-end prolongé. Eux, en revanche, sont déjà là. Mohamed Sifaoui, le journaliste spécialiste de l'islamisme, et le grand rabbin Moshe Levin. Honneur aux conseillers du grand rabbin de France. Allez, on s'incruste.
Vous êtes d'accord tous les deux sur le conflit Israël-Gaza?
On n'en a pas discuté entre nous, mais on est des hommes de paix, donc forcément on a beaucoup de points communs certainement. Après, il y a la réalité terrain, on ne mesure pas ce qui se passe sur place, mais sur l'éradication du Hamas, je suis persuadé qu'on est d'accord. Bah, je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel, mais forcément, avec un religieux, il y a toujours des points de désaccord. Un religieux, il va faire prévaloir, et c'est normal, la question de la paix, et il l'a dit. Moi, je suis plutôt partisan d'une guerre totale contre les organisations terroristes. Alors, en préservant les vies civiles, bien sûr, mais je n'ai aucun scrupule et aucun complexe à dire qu'ils vont en finir avec le Hamas. Et
c'est un problème de ne pas être d'accord ?
Absolument pas.
Non, sur ça, la guerre contre le Hamas, je suis évidemment d'accord. Il n'y a pas de souci, pas de différence, en épargnant effectivement les populations civiles au maximum.
Les populations civiles épargnées, les otages libérés, non à la haine, un message qui n'a rien de révolutionnaire, un peu comme dans une chanson de Jean-Jacques Goldman, comme ce que chacun souhaite, dit souhaiter, avec en toile de fond cette inquiétude sourde, celle de Mona Jafarian, d'origine iranienne et cofondatrice du collectif des femmes azaries. La France de 2024, à quoi ça lui fait penser ? Elle nous le dit.
Nous, les Iraniens, on a un peu l'impression de revoir l'Iran de 1979, où la jeunesse d'extrême gauche iranienne s'était finalement rapprochée des groupuscules islamistes, et ça avait fini par faire basculer un pays aussi moderne que l'Iran dans l'obscurantisme. Et c'est d'autant plus hallucinant pour nous parce qu'aujourd'hui, on voit, par exemple, en Iran, que la République islamique pose des drapeaux d'Israël et des États-Unis au sol, en obligeant les étudiants à marcher dessus et à crier mort à l'Occident, et qu'ils refusent de le faire, et que des milliers d'étudiants contournent les drapeaux, appellent à la paix entre les peuples et à l'amour entre les peuples. Et quand on voit qu'en Occident, c'est tout l'inverse, on dit qu'il doit vraiment y avoir un problème quelque part.
Alors dis-moi, tu penses quoi du conflit entre Israël et les Palestiniens ? Ça, c'était avant, depuis le 7 octobre, ceux qui s'expriment le plus bruyamment envisagent, plus ou moins consciemment, un choix entre Israël et le Hamas. From the river to the street, sur la rive droite, place de la République, la majorité silencieuse que chacun appelle de ses voeux peine à donner de la voix. Quelques centaines, 200, 300 personnes à 16 heures, et la plupart sont plutôt âgées, ce qui tranche bien évidemment avec la puissance des mobilisations étudiantes pro-palestiniennes et trop, très souvent anti-israélienne. Mais il reste encore 2 heures de mobilisation. Alors, on y croit. En tout cas, Nadia, elle, veut y croire. Liberté, égalité, fraternité. Elle affiche la couleur et la porte même sur sa tête.
Responsabilité dans le
vous pouvez nous dire comment vous êtes habillée ?
Je porte un bonnet phrygien qui caractérise la République et la laïcité. Donc, je pense que c'était le jour de le sortir.
Et dans les écoles, à votre avis, il faudrait plus de bonnets phrygiens comme le vôtre ?
En tout cas, il faudrait développer l'idée plutôt. Écoutez, Blanquer, là. Voilà.
Vive la démocratie.
Exactement, toutes ces valeurs-là,
vive
en fait.
Vive la liberté. Merci à vous.
Merci. Merci à lui parce qu'il défend vraiment.
On peut applaudir très fort.
Ouais. Très fort. J'applaudis, si vous voulez bien.
Allez, on laisse Nadia applaudir. Elle est enthousiaste, en tout cas, sur Jean-Michel Blanquer. Alors, justement, lui, on l'a retrouvé backstage, l'ancien ministre de l'Éducation, croisé par hasard et parasé, qui nous dit ce qu'il est venu faire. La bise à Nadia et à son bonnet phrygien, peut-être. Et non, pas le début d'une nouvelle idylle, mais le même message que celui qu'il a tenu tout au long de son mandat de ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
C'est toujours important de défendre la République dans toutes les périodes et a fortiori dans une période comme celle-ci où les menaces sont diverses et réelles. Donc il faut être à la fois calme, tout à fait décidé et être capable de porter haut et fort en fait la voix de la majorité silencieuse. Ce qui est très frappant, c'est que les secteurs les plus radicalisés sont très organisés, très mobilisés, tandis que les secteurs démocratiques, je dirais les gens équilibrés pour résumer, eux ne sont pas organisés, ne descendent pas dans la rue. Et à la fin, ils se font dicter la loi par une minorité.
Un ministre, un étudiant, un rabbin, un journaliste, une militante féministe et chacun à sa façon venu dire avec ses mots que la diversité ce n'est pas le combat. L'imam Chalgoumi pointe, lui, les responsables pour l'imam de Drancy, LFI et pro-Hamas.
On peut dire, allez, stopper la guerre, mais en même temps, faites un appel qui libère les otages, qu'il y a des amis, ils souffrent. Faites attention aussi que si votre message est les filles, il passe chez Hamas, parce que quand même vous êtes pro-Hamas, pourquoi vous ne faites pas un appel ?
Les filles est pro-Hamas ?
Pour moi, oui, bien sûr. Pro, la résistance, soi-disant, pour eux. Moi, Hamas, ce n'est pas la résistance. Moi, Hamas, ils ont massacré le peuple palestinien, ils ont trahi la cause palestinienne, ils ont tué, ils ont sali l'islam. Ça, c'est Hamas pour moi. C'est pire que Daesh, Hamas. Hamas, s'ils ont un gramme de responsabilité ou un sens de l'humanité ou de l'islam, pourquoi ils ne se sacrifient pas eux-mêmes? Ils se remettent à la justice. Pourquoi ils détruisent leur peuple? Pourquoi ils sont en train de souffrir leur peuple? Moi, la première chose, il faut faire la pression sur Hamas, qu'elle libère les otages et qu'ils se mettent eux-mêmes à la justice. Vous voulez sacrifier, sacrifiez pas un peuple, sacrifiez-vous vous-même.
L'imam Chalgoumi et la pluie, c'est aussi invité en cours d'après-midi. Dimanche pluvieux, dimanche heureux. En tout cas, DDF continue la mobilisation avec l'annonce de deux outils. Signalecole.org pour signaler tout problème d'antisémitisme dans son école, qui sera suivi sous peu de signalentreprise.org, qui sera quant à lui destiné à tous ceux qui, dans le monde du travail, sont brimés parce qu'ils sont juifs.
Merci beaucoup Eva Soto pour ce reportage très intéressant, effectivement, de la DDF Diaspora Defend Force, de cette manifestation organisée par la DDF. Merci Eva. On vous retrouve dans quelques secondes pour le rappel des titres. Et puis juste après, nous serons avec Yehuda David, médecin militaire de réserve qui a combattu notamment ces derniers mois dans la bande de Gaza. Et puis vous entendrez le témoignage inédit d'Ethan Meisel, le père de Ethan Meisel, Nitaï Meisel, qui a été tué à Gaza en décembre dernier. On en parle sur Radio J.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Il est 9h30, tout de suite l'essentiel de l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les commémorations de Yom HaZikaron, la journée en hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme. Une cérémonie cette année sous le spectre de la guerre encore en cours dans la bande de Gaza et des massacres antisémites commis le 7 octobre. Plus de 1200 morts ce jour-là, encore 132 otages dans la bande de Gaza, 711 militaires tués, 6236 Israéliens ont perdu un proche depuis le 7 octobre. Les sirènes du souvenir retentissent à nouveau ce matin dans une demi-heure heure de Paris, à 11h heure d'Israël, alors que de leur côté, les organisations terroristes donnent de la voix. Des drones explosifs ont frappé des villes du nord d'Israël. Il y a également eu tout à l'heure des tirs de roquettes sur les communautés du sud. Il n'y a pas eu de blessés. Selon le New York Times, Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, se cacherait à Khan Younes, et sur le terrain, les médias palestiniens ont rapporté des frappes nocturnes de Tzal dans les quartiers est de Rafah. Des raids ont aussi été signalés ces dernières heures dans le quartier de Shejaïa, dans le nord du territoire. Washington voit avec défiance l'opération de Tzal lancée à Rafah, une offensive majeure. Les États-Unis sont contre. C'est ce qu'a dit Anthony Blinken hier au téléphone au ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. En France, Valérie Hayet, tête de liste Renaissance aux européennes, piégée ce week-end en plein Paris. Des militants d'extrême droite, affublés de t-shirts néo-nazis ou prônant la suprématie de la race blanche, l'ont sollicitée pour un selfie. Elle a accepté sans voir ce qu'il portait. Valérie Hayet affirme avoir été piégée. Une manifestation contre la haine à l'école hier après-midi à Paris, place de la République. Plusieurs centaines de personnes y ont participé. Aussi des associations et organisations qui se sont jointes autour de l'appel de la DDF, la Diaspora Defense Force, de Franck Tapiro.
Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 10h pour un nouveau point sur l'actualité.
Radio G.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org. MDA-France.org.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/bereshit. charidi.com/bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Ilana Ferradian.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. Une journée spéciale, effectivement, ce matin et tout au long de la journée. Ce Yom HaZikaron, Israël traumatisé qui pleure ses morts. Israël qui marque ce lundi le jour du souvenir, donc en mémoire des soldats tués au combat et des victimes du terrorisme. Aujourd'hui, à 11h, heure israélienne, c'est une sirène d'alerte qui retentira pendant 2 minutes, suivie d'une cérémonie au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Et puis, bien sûr, dans les 53 cimetières militaires et nationaux de l'État juif. Pour parler de cette journée, nous sommes en direct, en ligne ce matin avec Yehuda David, médecin militaire de réserve. Bonjour Yehuda.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on vous voit pour ceux qui sont sur YouTube justement et pour ceux qui nous regarderont plus tard sur YouTube, vous êtes en direct d'un cimetière je crois, le cimetière de Beit Almin de Savion, hein, c'est bien ça? Que se passe-t-il exactement?
Tout à fait, mais nous nous apprêtons à commémorer le souvenir de tous nos soldats qui ont habité cette localité, qui ont été mes amis, les amis de mes enfants. Et comme chaque année, nous sommes tous ici réunis pour cette minute, ces 2 minutes absolument mémorables.
Alors justement, vous parlez de vos amis, des amis de vos enfants. Que représente aujourd'hui cette journée du Yom HaZikaron? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier dont vous souhaitez nous parler, nous raconter l'histoire?
Écoutez, à l'entrée de ce cimetière, il y a une petite stèle qui rappelle l'acte de bravoure d'un certain soldat, Ethan Merkel, qui a sauté sur une grenade il y a de cela bien longtemps, une quarantaine d'années, pour sauver tous ces soldats dont il était le commandant. C'est à peu près dans cet esprit que nous commémorons le souvenir de tous nos soldats qui sont des héros, des plus que des héros. Nous commémorons leur étincelle de vie. Et de cette étincelle jaillit, en fait, dans le cœur et dans l'âme de tous ceux qui se trouvent ici, de tous les jeunes, de tous les personnes âgées, cette flamme d'un retentissement de la vie que l'on va non seulement programmer, mais aussi continuer dans tout le pays et dans le monde entier, envers et contre tout.
Et justement, Yehuda, vous souhaitiez, alors je crois, si c'est possible, alors bien sûr, pour ceux aussi qui nous regardent sur YouTube, nous montrer des jeunes qui sont vêtus de chemises blanches avec un symbole sur leur chemise. Alors si c'est possible, évidemment, d'en trouver, sinon ce n'est pas grave, mais peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce que ça symbolise.
Alors ce symbole sur leur chemise, c'est une fleur rouge qui est le signe des Maccabim. Ça s'appelle la fleur d'âme des Maccabim, d'âme Maccabim, symbole de la victoire de la minorité sur l'immense majorité qui, soi-disant, est plus forte que nous, mais en fait, nous les vaincrons. Comme nous le faisons depuis quelques 4000 ans, et nous irons jusqu'au bout. Et j'ai un petit ridouche. Comment est-ce que l'on pourrait traduire ridouche? Un renouvellement d'idées à tous les ennemis d'Israël qui disent du fleuve jusqu'à la mer. Nous disons du fleuve jusqu'au fleuve, c'est-à-dire du Nil jusqu'à l'Euphrate.
Alors, il faut le rappeler, Yehuda David, vous êtes médecin, donc médecin militaire de réserve. Vous avez été mobilisé depuis le 7 octobre. Comment ça s'est passé pour vous, justement, sur place? Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi en quoi consistait votre travail?
Le 7 octobre, à 6h du matin, j'étais dans les rues de Tel Aviv, vers 6h15. J'ai appelé tous les amis que je pouvais appeler et je leur ai dit: Israël est attaqué sur tous les fronts. J'étais persuadé que sortiraient de tous les coins de rue des terroristes. Selon un certain livre qui décrit parfaitement cette situation et que je vous recommanderai, qui s'appelle Messia. C'est-à-dire que tous les Arabes israéliens se soulèveraient en même temps que le Hamas et que le Hezbollah pour envahir Israël. Je suis parti tout de suite dans mon unité. J'ai essayé de rattraper mon ami le général Yair Golan, qui est lui parti toute seule, presque les mains vides, avec une seule arme, et qui a sauvé avec sa simple voiture de civil des dizaines de jeunes qui étaient emprisonnés par la fête de Nova. Nous sommes partis par la suite avec toute mon unité. La première semaine, en fait, était dans le nord. Nous sommes revenus dans la bande de Gaza. Et là, j'ai fait une guerre, depuis 40 ans, j'ai fait toutes les guerres d'Israël, un petit peu pas comme les autres.
Ouais.
Ce coup-ci, j'étais responsable de 3000 soldats de logistique technologique israélienne, c'est-à-dire le cœur de l'armée, et nous avons organisé à peu près l'évacuation de 15 000 blessés.
Alors, malheureusement, c'est un lourd tribut que perd Israël dans cette guerre. Vous le dites, une guerre qui n'est pas comme les autres. Hein, cette guerre qui a été déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Plus de 630 soldats ont été tués depuis les attaques du Hamas. Comment vous imaginez, vous, la suite de cette guerre? Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'un accord est possible avec le Hamas, que le Hamas va finir par libérer les otages? Et est-ce que tout ça vaut le coup, finalement? Toute cette guerre vaut la peine? Toutes ces pertes aussi de soldats qui sont mobilisés, souvent très jeunes, qui sont sur le front?
Personne ne connaît l'avenir, mais le pays est divisé, bien entendu, comme à son habitude. Non pas en deux, mais en 13 parties, comme les 13 tribus d'Israël. En gros, certains pensent qu'il faut tout faire pour ramener les otages, même au coût d'un prix exorbitant, c'est-à-dire la libération de milliers de terroristes. D'autres pensent qu'il faut tout faire, rentrer dans Rafiah et récupérer ce que l'on appelle nos étincelles de sainteté, personnalisées par les otages. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Je sais tout simplement que dans une quinzaine ou deux jours environ, nous aurons vraisemblablement à nous occuper de notre front.
Vous pensez au nord d'Israël notamment?
Oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a environ 150 000 à 200 000 personnes qui sont évacuées de leur maison. Certaines familles n'ont même pas de gîte pour faire la Shiva, c'est-à-dire les 7 jours de deuil. Ils sont dehors dans des tentes. C'est une situation totalement intolérable que le Hezbollah nous impose. Et nous ferons ce qu'il fera.
Oui.
Ce qu'il
C'est-à-dire fera. Que vous pensez qu'une opération terrestre aujourd'hui serait peut-être la seule solution aussi pour mettre fin à la mainmise de ce territoire du sud Liban par le Hezbollah? Une opération israélienne serait peut-être une solution pour y mettre fin?
À mon avis, il n'y a pas d'autre solution. À moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dont on ne veut même pas y penser. C'est-à-dire une attaque massive, une ré-attaque massive de l'Iran. Et à ce moment-là, une certaine situation qui est décrite dans le Tanakh, c'est-à-dire la Bible, pourrait s'engager. C'est-à-dire la guerre de Gog et Magog.
Alors effectivement, je commence à voir qu'il y a du monde qui arrive, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, dans le cimetière, donc le cimetière de Beit Elmin, hein, de Savionne. On va vous laisser justement rendre hommage. On va aussi entendre dans une vingtaine de minutes la sirène d'alerte retentir du Yom HaZikaron. Peut-être un dernier mot, Yehuda David, si vous avez un message à adresser, qu'est-ce que vous souhaitez dire?
Tout à fait, j'ai une seule phrase à dire, qui est bien connue. Netzach, Israël. Loïc Chaker, l'éternité d'Israël ne sera jamais démentie.
Merci beaucoup. Merci Yehuda David d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J en direct donc d'Israël, les 53 cimetières militaires effectivement et nationaux de l'État juif qui sont aujourd'hui bien remplis effectivement pour rendre hommage à tous ces soldats tombés au combat et ces victimes du terrorisme. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J.
Ilana Ferradian.
Radio J.
Commémorer Nitaï Meisel et Amichar Ben David en faisant don d'une ambulance par balle au Magen David Adom. Au mois de décembre, en effet, Nitaï, 30 ans, tombé au combat à Gaza à l'âge de 30 ans. Il servait dans une unité de blindés d'élite. Sa mission, rechercher des otages. Pour en parler et pour lui rendre hommage ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir son père en ligne avec nous. Nitaï Meisel, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Votre fils, effectivement, Nitaï, a été tué le 24 décembre dernier. C'était un soldat israélo-américain, puisque Nitaï est né à Baltimore, aux États-Unis. On va évidemment parler de lui, mais c'est aujourd'hui d'abord le Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Comment ça va se passer pour vous, cette journée très spéciale?
On va être plus tard au cimetière. Déjà hier soir, on a eu une cérémonie au centre de la ville où on a commémoré tous ceux qui sont tombés. Et plus tard, aujourd'hui, on aura une cérémonie au cimetière là-bas où Nitaï est enterré.
Alors, on le disait, votre fils est né aux États-Unis, effectivement, c'était un soldat de réserve, donc. Mais je crois qu'en fait, vous ignoriez qu'il faisait partie d'une unité d'élite, il ne vous l'avait pas dit. Hein.
Oui, ça c'est vrai. Il était dans le service régulier, il était dans les tanks, et puis aux réserves, au Milouim, il a été bénévole dans une unité élite, mais à nous, il n'a rien dit. Il a dit qu'il continue d'être dans les tanks, et même dans la guerre, lorsqu'il avait commencé d'être... Il a commencé la guerre le premier jour. Déjà au Simchat Torah, il était à l'armée, on lui appelait à l'armée, et il a combattu déjà la première semaine. Mais à nous, il a seulement dit qu'il aide à des autres, qu'il fait de la logistique, car il ne voulait pas que nous, on avait peur.
Oui, il ne voulait pas vous inquiéter, en fait. C'est ça.
Oui, ça c'est juste. Un autre détail, peut-être, que vous dites qu'il est né en Amérique, ça c'est vrai. Mais moi, actuellement, je suis de la Suisse, de Bâle. Alors, il était aussi suisse.
Oui. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour lui, justement, ce jour du mois de décembre? Comment il a combattu les terroristes? Est-ce que l'armée vous a donné, justement, quelques détails sur sa mission qu'il était en train d'opérer sur place?
Absolument, oui. Ce jour, on avait d'informations qu'il a quelques bâtiments où il y a des otages. Et on a envoyé une mission spéciale du commando pour chercher ces otages. C'était une rue. À deux côtés de la rue, il avait des bâtiments et on ne savait pas où exactement ils seraient les otages. Et au milieu, dans la rue, il avait le tank de Nitaï qui aidait et donnait du couvert pour les commandos, et les commandos sont entrés dans les bâtiments et ils ont cherché un appartement après l'autre, une chambre après l'autre, et au milieu il avait le tank de Nitaï, et lui il est avancé doucement, et puis ils ont vu qu'il a un camion au milieu de la route.
Oui.
Ils ont tiré sur cet camion pour vérifier si ça va exploser ou non. Et puis, ça n'est pas explosé. Alors, ils ont avancé jusque là-bas. Et puis, les terroristes ont lutté sur le tank RPG. Et ça a tué, oui, immédiatement.
Comment vous avez appris, vous, la nouvelle? Comment ça s'est passé pour vous les jours qui ont suivi? Est-ce que l'armée vous a tout de suite annoncé sa mort? J'imagine que ça a été très brutal. Comment vous l'avez vécu?
Ça s'est passé à 10h le matin et à 2h l'après-midi, la même journée. J'étais à la maison, j'ai travaillé de la maison. Et il y avait des 3 soldats qui sont venus pour me dire que l'État est tombé. Et puis, c'est un choc, bien sûr.
Ouais.
Et là, après, on a envoyé des autres soldats pour notifier ma femme et tous les enfants. Et eux, ils sont venus chez nous à la maison. Et on a été tous étant ensemble, toute la famille était ensemble. Et oui, c'était très dur.
Alors, on sait que près de 400 000 réservistes ont été appelés justement en Israël le 7 octobre pour défendre Israël, venus des quatre coins du monde pour défendre le pays, comme Nitaï. Que représentait justement Israël pour Nitaï et comment vous souhaitez qu'on se souvienne aujourd'hui de lui?
Nitaï aimait très beaucoup Israël. Il était toujours, lorsqu'il avait du temps, il était dehors, il a fait des excursions dans le désert, il a habité à la fin à Be'er Sheva, au sud, il a fait des excursions dans le désert, il a toujours fait attention de ramasser de la poubelle s'il a vu, il avait toujours un sac de plastique avec lui pour ramasser s'il y a quelque chose qui ne doit pas être là-bas. Et chaque journée, lorsqu'il avait du temps, il a été dans une oasis pour écouter de la musique et être dans la nature.
Ouais. C'est vrai qu'on a pu lire aussi sur le site du Magen David Adom, puisqu'il était volontaire depuis 2009 au sein du MDA, il ne cessait jamais de sourire, c'était sa marque de fabrique, il souriait beaucoup.
Il a commencé d'être bénévole de l'âge de 16 ans et il avait toujours, ça c'était quelque chose de très très important pour lui. On a même reçu plus tard WhatsApp qu'il a envoyé à quelqu'un qui n'était pas sûr s'il veut faire de la bénévole ou non. Et Nitaï a lui écrit, pour moi, c'est l'activité la plus importante que je fais dans ma vie. D'être là pour des autres et aider à des autres.
Et aujourd'hui, vous avez décidé avec votre famille, avec les amis de Nitaï, justement, de lui rendre hommage en achetant, c'est très symbolique, une ambulance du MDA, hein, c'est ça, hein?
Exactement, car pour lui, on a cherché quelque chose pour continuer la comme il était dans sa vie. Et dans sa vie, c'était très important pour lui d'être dans le MDA. Alors, on a décidé de faire aussi quelque chose qui continue sa activité.
Et on peut, évidemment, si les auditeurs veulent aussi rendre hommage à Nitaï, on peut encore participer, justement, pour participer à l'achat de cette ambulance?
Absolument, oui. C'est parce que c'est une ambulance blindée, alors c'est plus cher. Et tout de même, on avance doucement, mais c'est possible de soutenir cette campagne si on va à la site de MDA en France.
On ira sur le site, effectivement. Alors, quelques dernières questions, Ethan. Des centaines de personnes ont participé aux funérailles de Nitaï dans le cimetière militaire de Rehovot, hein, je crois. Comment vous vous êtes senti? Vous vous êtes senti justement soutenu par le peuple d'Israël, par le peuple juif qui a manifesté, aussi pour chaque soldat qui est tombé, une participation assez incroyable?
Oui, j'ose dire que c'était plus que cette centaine, c'était des milliers, c'était des mille qui étaient. Et aussi dans la Shiva, toute la semaine, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues, même des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Seulement, il a écouté que Nitaï était tombé dans la guerre et ils sont venus pour nous, d'être avec nous, même des personnes qu'on ne connaît pas. c'était vraiment quelque chose de tout en Israël.
Mmh. Et est-ce que vous êtes en lien aujourd'hui avec d'autres parents endeuillés? Est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous appréhendez les choses? Est-ce que vous faites des rencontres pour vous soutenir justement?
Oui, absolument. On a des rencontres avec des autres parents. Aussi, dans le tank de Nita, il y avait un autre soldat qui était aussi tué à la même instant. C'était Ari Rein. Alors oui, là, on est au contact avec ses autres parents, car c'est très difficile pour toutes, pour tous.
Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire justement aux auditeurs? Un dernier mot aussi, peut-être, un message d'espoir, puisqu'on sait que la guerre n'est pas finie, hein, ça fait maintenant plus de 7 mois qu'elle dure. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, Ethan?
Je crois que le plus important, c'est d'être unis et regarder à la future. C'est pour cette raison que nous, on fait cette campagne pour une ambulance qui va sauver des autres vies, car nous, on continue la vie en Israël continue, et ça c'est la chose correcte, et c'est pour cette raison que nous on fait quelque chose pour la future, pour sauver des autres vies.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Ethan Mezel d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Vous avez une journée effectivement assez compliquée qui vous attend. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et évidemment, on peut faire un don en se rendant sur le site du Magen David Adom pour participer notamment à l'achat de cette ambulance en hommage à votre fils. Merci beaucoup Ethan et à très bientôt.
Merci beaucoup. כילד ההולך לו לאיבור, כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, לגימה קטנה של מים מעייני החוכמה, תביא להם את התקווה.
Arim Roshi, Shai Gabzo ce matin sur Radio J. Merci de nous avoir suivis. Toutes nos émissions, toutes nos chroniques à retrouver bien sûr sur notre site internet radioj.fr et sur notre chaîne YouTube.
Radio J, le 9-10, Ilana Ferradian, Radio J.
14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le grand journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le grand journal, 14h-15h, à tout à l'heure.
Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusions sanguines, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Radio J.
Radio J. Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et on se retrouvera eh bien quant à nous dès demain à 6h avec Eva Soto. Mais sans plus tarder, l'émission que vous attendez tous, que la France attend avec impatience.
Mais n'exagérons pas.
C'est le 10-11 de Liz Goodman. Bonjour Liz.
Oui, bonjour Ilana. Alors, dans quelques... ça va être un spécial Yom HaZikaron puisqu'on est en plein dans cette actualité. À 10h, heure française, 11h, heure israélienne, la sirène du souvenir retentira en direct d'Israël, puis ce sera le journal d'Eva Soto à 10h05. Je serai en studio avec maître Déborah Journeau qui nous parlera de l'actualité de son groupe d'avocats par rapport aux otages et par rapport à ce qui se passe en France également. Puis à 10h20, cette semaine à l'Agence juive avec Shmuel Haloul qui nous parlera de ce passage si compliqué tous les ans en Israël et peut-être encore plus maintenant entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaout. Voilà. Ensuite, à 10h30, après le rappel des titres d'Eva Soto, Hélène Schumann nous parlera de Tsahal, une armée comme aucune autre, dans le cinéma israélien, bien sûr.
Eh bien, à suivre, effectivement, dans cette édition. Merci Liz et à tout de suite.
À tout de suite.
Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Dans quelques secondes va retentir en direct